sous-marins britanniques qui travaillaient au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Vous savez que vous êtes la première à franchir la limite des 120 ans, la première dans l'histoire de l'humanité.
J'en suis fière, très fière.
Vous pensez qu'il y a un paradis ?
Non.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer ce propos par une citation assez longue que j'extrais du dernier carnet de notes du général de Gaulle et qui est daté de 1967. Il a 77 ans et il a été réélu 2 ans plus tôt pour un second septennat à la tête de l'État. Et voici ce qu'il écrit. À 89 ans, Sophocle écrit Œdipe à Colonne. À 80 ans, Goethe écrit son grand Faust. À 97 ans, Titien peint la descente de la croix. À 85 ans, Verdi compose son grandiose Te Deum. Monet, Kant, Voltaire, Chateaubriand, Hugo, Tolstoï, Bernard Shaw, Mauriac, etc., octogénaires, poursuivent une œuvre admirable. À 90 ans, le doge Dandelot assiège et prend Constantinople. Et de Gaulle de conclure avec un sourire ironique, ce sont des exemples qu'on se cite à soi-même pour donner le change sur son âge. Voilà bien un texte à verser au dossier d'une réflexion, celle que je vous propose ce matin, sur la grande variété des regards qui, d'âge en âge, de civilisation en civilisation, ont été jetés sur la vieillesse, entre célébration et rejet, entre fascination et indifférence, entre considération et dégoût. L'allongement sans précédent de la vie aidant, les seniors, c'est le terme nouveau, les seniors, trouvent dans notre société en nombre et en influence une place à coup sûr privilégiée par rapport à leurs prédécesseurs, ceux des époques antérieures. Georges Vigarello, historien sans pareil du corps et des sensibilités, va nous conduire sur ces bords escarpés.
Comme on leur cassait les oreilles avec les jeunes générations. Un beau jour, les vieux de la vieille formèrent une association. Bravement, ils organisèrent le congrès des moins de 100 ans. Et dans les rues, ils défilèrent en acclamant leur président. Nous, les jeunes, quand on a vu ça, nous en sommes tous restés babas. Les quinquagénaires marchaient en sifflotant. Les sexagénaires marchaient en rouspétant. Les septuagénaires marchaient en tout sautant, et les octogénaires marchaient en crachotant. Mais plus malins que leurs confrères, les centenaires ne marchaient pas avec la croix et la bannière. On les traînait dans des voitures à bras. Le président prit la parole et dit, messieurs, c'est très vexant. Les jeunes gens nous prennent pour des gnolles, faut leur montrer qu'on a du cran. Et puisqu'ils sont vieux avant l'âge, pour calmer tous ces orgueilleux, montrons-leur qu'on est à la page. Et soyons jeunes, nous les vieux, une heure après plein de ressorts, les vieux messieurs faisaient du sport. Les quinquagénaires jouaient à saut de mouton, les sexagénaires jouaient aux petits soldats de plomb, les septuagénaires jouaient avec un ballon, et les octogénaires jouaient du mirliton. Mais plus malins que leurs confrères, les centenaires ne jouaient pas, car ils têtaient leurs infirmières qui les berçaient dans leur voiture à bras. finir ce jour mémorable et clôturer leur grand meeting. Tous ces braves messieurs honorables virent les fous dans un dancing. Aux jeunes gens perchés sur des chaises, ils montrèrent ces vieux Gaulois ce que c'était que la gaieté française. Sous le grand Napoléon III, et les petites poules crièrent soudain, les voilà nos danseurs mondains. Les quinquagénaires dansaient une polka, les sexagénaires dansaient la mazurka, les septuagénaires dansaient la ridova, et les octogénaires dansaient la raplapla. Mais plus malins que leurs confrères, les centenaires ne dansaient pas. Il fauchait le fric aux vieilles rombières et se débinait dans leur nature à bras.
Georges Garello, bonjour.
Bonjour.
Voilà qui était tonique, n'est-ce pas?
C'était assez loin que l'on puisse dire.
C'était une chanson de Georgius. Georgius, Lucien et Jean Boyer, Henri Verdun. Une chanson de 1929 qui s'intitulait « Moins de 100 ans ». Je l'ai choisie parce que, non sans quelque allégresse et à la critère en même temps, elle donne à connaître les âges de la vie.
Absolument. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle essaie de séquencer en quelque sorte l'âge. Mais ce que je trouve important, d'une part, c'est la date. 1929. Et 1929, c'est une période où sans doute la France connaît une sorte de rupture entre des classes jeunes qui sont quand même amoindries et des classes plus vieilles qui du coup apparaissent plus nombreuses, mais qui en même temps, sans doute aussi, à cause de l'allongement de la vie, sont plus présentes. Donc cette chanson a déjà cette signification qui est liée à la date. Alors comme nous disions, elle séquence le temps, mais en même temps, tout à fait intéressant, elle commence à 50 ans. Aujourd'hui, nous ne commencerions pas à 50 ans, vous voyez. Et en même temps, ce qu'elle propose, ce ne sont pas ce qui aujourd'hui serait important, c'est-à-dire le fait d'inscrire les générations avancées dans les pratiques quotidiennes. Si on regarde ce qui était évoqué, ce sont des pratiques de danse, ce sont des pratiques de courage, mais ce ne sont pas des pratiques d'inscription finalement dans l'espace public du travail par exemple, ou des échanges, ou des voyages, vous voyez. Et là encore, on voit que malgré cette chanson qui est inscrite dans l'entre-deux-guerres, nous ne sommes néanmoins pas dans les perspectives culturelles d'aujourd'hui.
Ce qui me paraît également intéressant, c'est que l'on se trouve face à face avec la grande ambivalence de la vieillesse sous le regard des autres et peut-être sous le regard des vieillards eux-mêmes. Je veux dire, d'un côté, depuis toujours, il y a l'idée que le grand âge peut porter le savoir, la sagesse, et puis en face, la décrépitude, la faiblesse. Ici, c'est une manière de dire qu'on se définit contre le second point de vue et qu'on réagit avec une tonicité remarquable.
On réagit avec vigueur.
Ostensible.
Et les termes utilisés sont des termes moraux, d'ailleurs. Une sorte d'engagement, etc. L'ambiguïté est présente même dans la chanson, vous voyez, parce que d'un côté, pour simplifier, vous avez les hommes de... D'ailleurs, ce sont des hommes, en plus, qui sont représentés. Vous avez les hommes de 50, 60 ans qui sont relativement verts.
Les femmes viendront, rassurez-vous.
Je n'en doute pas. Qui sont relativement verts. Et puis, au contraire, ce qui est dit sur les personnes de 80 ans, ce sont des personnes crachoteuses, ce sont des personnes qui sont quand même en large avancée de débilité.
Mais les centenaires sont très joyeux.
Oui, c'est ça, mais vous voyez, il y a l'ambiguïté. En même temps, ils sont joyeux, ils sont présents, mais ils sont quand même largement défaits.
Il faut peut-être, Georges Vigarello, s'arrêter un instant sur la question de la dénomination, qui est toujours éclairante, je veux dire ancien, vieillard, senior, etc.
Oui, on voit bien que le mot traditionnel, c'est celui de vieillard, mais il y a un gros effort indiscutable dans les périodes récentes pour essayer d'échapper à ce mot qui apparaît comme stigmatisant. Dans certains livres, je pense par exemple au précis de Gérontologie de 1955 de Léon Binet, on voit voisiner le mot vieillard avec le mot de personne âgée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à parler de personne âgée.
Nos anciens, dit-on quelquefois dans les communes françaises.
Le mot senior, qui est un mot neuf, et qui, bien sûr, a un aspect plus valorisant que le mot vieillard. Et puis, il y a des efforts aussi très intéressants chez les anglo-saxons lorsqu'ils essaient de distinguer les âges. Alors, ils disent young old, puis old old et oldest old. voyez, cette difficulté d'arriver, où vous avez encore aujourd'hui...
Les jeunes vieux, les vieux du milieu et les très vieux.
Vraiment les très vieux.
Les vieux vieux.
Vous avez aussi cet effort, je trouve important, fait par certaines associations pour donner plus de visibilité et plus, au fond, de reconnaissance à ces personnes qui atteignent des âges éloignés, dont je ne voudrais pas citer directement le chiffre. En tout cas, que disent-elles? Eh bien, il faut une association qui s'appelle Hold Up. Et ça signifie que c'est pas seulement les seniors, bien entendu.
Je ne sais pas comment on aurait caractérisé en France ou aux États-Unis Jeanne Calment, dont on a entendu la voix en pastille, dans l'interstice de notre générique. Alors cette ambivalence, on la trouve dès l'Antiquité, avec des contrastes qui sont tout à fait frappants, d'un moment à l'autre, de la Grèce à Rome, selon les auteurs aussi, entre le regard positif et le regard négatif.
Ben oui, c'est ce que vous disiez. Je crois que l'âge de la vieillesse, c'est un âge qui, à travers l'histoire, a toujours été l'objet d'une ambivalence. Alors c'est très frappant pour la Grèce, par exemple, que lorsque vous lisez Platon, vous voyez très bien que Platon considère que la République doit être entre les mains d'une sorte d'aéropage de personnes relativement âgées, qui seraient sages, et qui seraient sans passion, et donc du coup prêtes à mieux réfléchir aux choses. Et puis, si vous lisez Aristote, au contraire, vous avez le sentiment que la vieillesse est faite de gens timorés, ridicules, radoteurs, faibles, incapables de gouverner. Donc on a là, déjà, la présence, pourtant ils sont pas tout à fait contemporains, mais quasi, on a là la présence de cette ambivalence dont nous parlons. Contrairement à Platon, par exemple, la Grèce classique, je pense à Sophocle, à d'autres, donne une image assez affreuse. Œdipe est quelqu'un qui se crève les yeux, qui meurt de façon assez lamentable. Vous voyez, on voit bien cette ambiguïté très forte.
Restons en Grèce avec Platon, la République de Platon, où Platon fait interroger par Socrate Céphale, qui est un marchand du Pirée. L'extrait que je vous propose est lu par Jean-Pierre Leroux dans les Lundis de l'Histoire de Jacques Le Goff, le 6 avril 1987, sur France Culture.
J'aimerais à apprendre quels sont, puisque c'est à ce point de l'âge que tu es maintenant rendu, tes vues sur ce dont, tu le sais, les poètes parlent comme de la limite de la vieillesse. Si tu proclames que ce soit dans l'existence un moment pénible, ou comment pour ta part tu l'envisages? Oui, Socrate, je vais te dire comment, par Zeus, moi je l'envisage. Maintes fois, en effet, nous nous réunissons, quelques vieillards à peu près du même âge, histoire de ne pas faire mentir le vieux proverbe. Or, la plupart d'entre nous, dès qu'ils sont ensemble, se lamentent, regrettent les plaisirs de leur jeunesse, rappelant les souvenirs de leurs amours, de leurs beuveries, de leurs bons repas, de tout ce qui peut encore se rattacher au plaisir de ce genre. Ils s'irritent d'en être privés, comme si c'était de grands biens, et qu'alors, pour eux, ce fut bien vivre, tandis qu'à présent, ce n'est plus vivre du tout. En réalité, j'ai pour ma part eu déjà l'occasion de constater chez d'autres une attitude bien différente, en particulier, comme de juste, chez Sophocle, le poète, près de qui je me trouvais un jour que cette question lui était posée. « Comment, Sophocle ? » demandait le quidam. « Te comportes-tu par rapport aux choses de l'amour ? Es-tu capable encore d'avoir commerce avec une femme ?» Et lui de répondre « Ne blasphème pas, bonhomme !» C'est au contraire avec la plus grande satisfaction que je m'en suis évadé, comme si c'était s'évader de chez un maître follement sauvage. Or, même en ce temps-là, je fus d'avis que c'était là bien parlé, et je ne le suis pas moins aujourd'hui. C'est que la vieillesse, à l'égard au moins de tout ce qui a de l'analogie avec de tels plaisirs, fait naître en nous un sentiment immense de paix et de libération. Quand on a de la mesure et qu'on est accommodant, même la vieillesse n'est pas trop importune, tandis que dans le cas contraire, aussi bien qu'à la vieillesse, c'est à la jeunesse, Socrate, qu'il arrive pour une telle raison de se montrer insupportable.
Alors ce passage, que je trouve magnifique, est au cœur de la contradiction dont nous parlions, puisque le marchand fait d'une part référence à des personnes qui se plaignent de vieillir et qui en souffrent, et d'autre part, il fait référence au contraire, et en particulier en se citant, à des personnes qui considèrent-elles un avantage de la vieillesse. Alors, qu'est-ce cet avantage? Ben, je trouve que le propos est relativement traditionnel. C'est la perte de passion, c'est la distance par rapport à ce qui est de l'ordre de l'agitation et de l'effervescence, c'est la possibilité d'avoir une vue de surplomb, c'est la possibilité d'avoir une meilleure compréhension des choses. Autant de références qui, dans une certaine mesure, traversent le temps et renvoient à ce qu'on pourrait appeler de manière assez banale des principes philosophiques assez classiques.
Est-ce que vous ne pensez pas que notre actualité, telle qu'elle se reflète en particulier dans la publicité, est plus proche de Platon que d'Aristote, qui accuse les vieux de tous les défauts?
Je trouve que notre période, elle est également croisée, elle est traversée par ces ambiguïtés. Et effectivement, il y a des publicités, par exemple la mère Denis, qui peuvent être des publicités qui donnent une image très positive de la vieillesse. Il y en a d'autres qui peuvent donner le sentiment que c'est la jeunesse qui est la période la plus flamboyante, la plus intéressante, la plus riche, voyez. Ce qui me frappe dans notre période actuelle, c'est l'image contrastée des seniors. D'un côté, les seniors sont ceux qui peuvent, alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure, s'inscrire dans les comportements tout à fait du public, conduire des voitures, recourir aux micro-ordinateurs.
Faire des croisières,
voyager, s'occuper des enfants, des petits-enfants, etc. Et d'un autre côté, dans l'entreprise, les seniors ne sont quand même pas l'objet d'attention très valorisante.
Vous diriez qu'il y a actuellement dans notre civilisation une part qui est celle de Platon et une autre qui est celle d'Aristote.
Et c'est pour ça que je trouve passionnant cette idée selon laquelle l'ambiguïté de la vieillesse traverse le temps, même si bien sûr les images qui lui sont données ne sont pas forcément les mêmes, mais l'ambiguïté traverse le temps.
Il y a une différence en même temps très très claire entre la Grèce et Rome. Le sentiment vient très vite à lire les textes de l'époque romaine que le vieillard est mieux considéré, en tout cas à la période de la République. C'est un des textes fameux de Cicéron, que c'est le De Senectute, oui. De la vieillesse.
Il rentre dans des détails, disant que le déclin physique ne gêne pas forcément, que le renoncement au plaisir est une forme de libération, que certes, la mort menace, mais d'un autre côté, comme la mort peut survenir à tout âge, ça ne concerne pas davantage et forcément les personnes âgées. Donc ce texte est effectivement tout à fait intéressant, mais en même temps, on voit que d'autres auteurs à Rome, je pense à Plaute en particulier, sont très stigmatisants sur les vieillards.
Comme l'avait été en Grèce Aristophane.
Exactement. Les vieillards, ce sont des bouffons lubriques, ils sont avares, ils sont bernés par leur entourage, ils sont odieux, ils sont au fond incapables d'avoir des relations saines avec les autres. Et en même temps, vous avez le texte de Sénèque, qui lui, bien sûr, défend la vieillesse comme étant une période propice, dit-il, à la méditation. Vous voyez,
on est du côté des stoïciens, qui apprennent à affronter l'âge avec sérénité.
Absolument.
Dans le De Senectute de Cicéron, c'est Caton, l'ancien, qui s'exprime et qui rassure les lecteurs quant à la vieillesse. Cela sonne d'ailleurs assez actuel.
Bien sûr.
Avec l'argument que la vieillesse ne détourne pas des affaires, car il y a des activités qui conviennent mieux aux vieillards. L'idée que le déclin physique ne gêne pas, parce qu'après tout, on n'est pas obligé de demander à un vieillard d'être fort. Mmh. Le renoncement au plaisir de la table ou au plaisir de l'amour, ben, c'est une libération.
Ça libère.
Plutôt qu'une punition. Et enfin, ceux qui disent que la vieillesse est l'approche de la mort, mais il faut répondre que la mort survient à tout âge. Voilà, le renoncement au plaisir, c'est une notion intéressante qui va courir parmi les siècles suivants.
Oui, en même temps, c'est une notion philosophique. Vous voyez cette fameuse idée de Platon que je trouve assez centrale comme repère, en quelque sorte, des philosophies classiques. C'est philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est-à-dire, c'est apprendre, finalement, à prendre véritablement une distance vis-à-vis du corps. Je reviens sur Caton parce que c'est une image importante, effectivement. Caton qui est présenté avec des adjectifs forts. C'est un vieillard magnifique. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est capable, grâce à la distance qu'il a pu prendre avec la passion, peut devenir un exemple magnifié.
Alors si on avance dans le temps, Georges Vigarello, on en vient à la période du Moyen-Âge, où la vieillesse n'est pas très présente dans les écrits.
C'est un fait. La vieillesse n'est pas très présente dans les écrits, mais vous savez, elle n'est aussi pas très présente dans le réel.
Parce que les gens meurent.
Ben oui, les gens meurent
tôt.
Extrêmement tôt. Et donc vous avez très peu d'exemples, en particulier, où les personnes pourraient avoir des petits-enfants. Ça n'existe pas, ça, dans les romans médiévaux. Et de même que vous n'avez pas cette image du combattant âgé, l'invalide. Le combattant, eh bien, il traverse sa vie et à la fin, il n'est plus combattant, mais il n'est plus rien.
D'après nos démographes, il n'y aurait que 1 à 2% des habitants de l'Europe occidentale qui atteindraient 60 ans
exactement
au moment du Moyen-Âge.
Donc ça entraîne un véritable effacement de l'image de la vieillesse, avec une ambiguïté. Moi j'ai découvert quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est dans un règlement des Visigoths, pour condamner la personne qui a provoqué un meurtre, vous avez des différences. 100 sous d'or à payer si vous tuez quelqu'un qui a 60 ans, 300 si c'est un adulte qui a moins de 50, et 200 si la personne est entre 50 et 60. C'est quand même très curieux, parce que là on voit à nouveau le fait de séquencer les âges. Par rapport au réel, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Vous voyez, je pense pas qu'il y ait énormément de gens au-delà de 60 ans.
Pour apprécier ce que fut le Moyen-Âge en face de la vieillesse, puisque nous traitons de l'image de la vieillesse à travers les âges, cet extrait du roman de la Rose, du XIIIe siècle, cet extrait également des Lundis de l'Histoire.
Elle pouvait à peine se nourrir tant elle était décrépite, la vieille radoteuse. Sa beauté était bien gâtée, sa tête était chenue et blanche, comme si elle fût fleurie. Ce ne fut pas une grande perte ni grand dommage si elle mourut, car tout son corps était séché de vieillesse et anéanti. Son visage, jadis délicat et plein, était flétri et sillonné de rides. Elle avait les oreilles moussues, et de ses dents, il ne lui restait pas une. Elle était si caduque qu'elle n'eût pu aller sans potence la longueur de 4 toises. Telle avait été l'œuvre du temps qui marche nuit et jour sans relâche. Ce temps qui nous fuit et nous quitte si furtivement qu'il semble s'arrêter sans cesse, mais qui ne finit de s'écouler, si bien qu'on ne peut penser au présent qu'il ne soit déjà passé. Le temps qui va toujours sans retourner en arrière, comme l'eau qui descend et dont une seule goutte ne peut remonter à sa source. Le temps auquel rien ne résiste, ni fer, ni chose si dure qu'y soit, car il corrompt et mange tout. Le temps qui change, nourrit, fait croître toute chose, et tout use et tout pourrit, et le temps qui vieillit nos pères, qui vieillit les rois et les empereurs, et nous-mêmes nous vieillira, à moins que la mort ne nous prenne avant, lui avait ôté tout moyen, à tel point qu'elle n'avait point non plus de force ni de sens qu'un enfant de 1 an. Cependant, que je sache, elle avait été fine et entendue en son bel âge, mais elle était maintenant toute rassotée.
Toute rassetée. C'est une sorte de sérénité désespérée qu'on trouve dans ce texte.
Ah, totalement. Et c'est un texte d'ailleurs centré peut-être plus sur le temps que sur la vieillesse. Et je pense que l'image que le texte donne de la vieillesse est une image qui, sans doute, au Moyen-Âge, est présente, mais relativement rare. Ce qu'il faut retenir et qui me paraît important, c'est cette représentation de la vieillesse comme étant un temps de dessèchement. Parce que ce qui est au cœur, finalement, de la représentation du corps au Moyen-Âge, le corps est fait de liquide, il est fait d'humeur. Et ce qui donne de la force au corps, c'est lorsque les humeurs sont présentes et lorsqu'en plus elles sont pures, c'est le sang qui est la meilleure image. Or, que fait la vieillesse? Elle dessèche. C'est-à-dire que les humeurs, comme dans la mort d'ailleurs, les humeurs s'évadent et ne restent finalement que les os et une peau complètement ridée et desséchée. Bien sûr, la vieillesse est décrite. Il me semble néanmoins que dans les rues médiévales, ce type de personnage ne doit pas être très fréquent ni présent.
On voit ressurgir ce souci de la vieillesse, comment la vivre d'une façon sereine, comme inévitable. On la voit par exemple chez des auteurs comme Montaigne ou comme Shakespeare. Montaigne voit la vieillesse comme une destinée personnelle, intériorisée, que l'on doit accepter sans révolte, en réduisant son rôle avec discrétion. Je cite Montaigne, « La décrépitude est qualité solitaire. Bien que je sois sociable jusqu'à l'excès, il me semble pourtant raisonnable qu'aujourd'hui je soustrais mon importunité à la vue du monde et que je la couve seule, que je me replie et me retire en ma coquille comme les tortues. Il est temps de tourner le dos à la compagnie. » Fin de citation.
Et peut-être ce qu'il faut ajouter, c'est que lui se sent vieux à un âge qui, pour nous, n'a strictement rien à voir avec la vieillesse. C'est à 47 ans qu'il se considère comme vieux. Mais ce qui est intéressant, c'est cette image selon laquelle on se retire. Vous voyez, on n'existe plus dans l'espace public et dans les relations habituelles. En même temps, ce qui est très important chez lui, c'est cette idée selon laquelle, en se retirant, je garde quand même quelque chose qui est de l'ordre de ma force personnelle. Simplement, je ne peux plus exister vis-à-vis des autres comme j'existais auparavant.
Ce repli, aujourd'hui, nous paraît assez étranger.
Absolument, voilà. Ce qui est très important aujourd'hui, me semble-t-il, c'est cette revendication venant des personnes entrant dans l'âge, si on peut dire les choses comme ça, revendication selon laquelle elles n'ont pas, au contraire, à se retirer par rapport à l'espace public, mais elles ont à participer à l'espace public. Et ça, c'est extrêmement nouveau. Je pense que ce qui est très nouveau aussi, c'est, contrairement aux images classiques que propose l'hygiène des vieillards, par exemple, ce qui est très nouveau, c'est l'insistance sur la notion d'activité. L'image classique que l'hygiène propose des vieillards, c'est une image sur laquelle il faut qu'ils soient attentifs à ce qu'ils mangent, il faut qu'ils soient attentifs à la façon dont ils entretiennent la propreté, etc. Mais il y a, à nouveau, comme chez Montaigne, cette idée sur laquelle on se retire. Voyez ? Alors que là, au contraire, l'idée, c'est, aujourd'hui, c'est « je n'ai pas à me retirer ».
Sauf les maisons de retraite.
Oui, bien entendu. Mais alors on entre dans une autre question qui est très importante et qui est la suivante. Comment aujourd'hui distingue-t-on des phases dans la vieillesse? Et c'est vrai que on voit bien comment des noms ont émergé. Troisième âge, quatrième âge, etc. Vous voyez? Et donc là, il se pose cette question finalement des périodes les plus éloignées avec la difficulté d'en donner le seuil. Mais en revanche, l'obligation d'en gérer les difficultés.
Cette idée des âges de la vie, elle n'est pas si nouvelle que ça, puisqu'on la trouve par exemple dans l'œuvre d'Ambroise Paré, le grand chirurgien qui a fleuri, comme on dit, à la fin du XVIe siècle. C'est un extrait des Chemins de la connaissance d'Emmanuel Hirsch sur France Culture, le 30 mai 1995.
Nous diviserons les âges en quatre, à savoir puérilité, adolescence, jeunesse et virilité, et vieillesse. Vieillesse est divisée en deux parties. La première dure depuis 35 ans jusqu'à 49, âge auquel les hommes sont appelés en latin « senes », c'est-à-dire « vieille ». La seconde partie de la vieillesse est distribuée en trois degrés. Le premier est quand les hommes ont encore la vertu virile pour vaquer aux négoces civils, ce que ne peuvent faire ceux du second degré pour l'imbécilité de leur vertu. Ceux qui sont au tiers degré sont vexés d'imbécilités extrêmes. Impotents tant du corps qu'aux esprits, ils sont recourbés, idiots et en enfance retombés. Et ils sont du tout inutiles, desquels on dit bis pueri senes. Ceux du premier degré sont joyeux et encore vertueux. On les appelle communément vers vieillards. Les seconds ne demandent que la table et le lit, et les derniers, que la fosse. Or, en vieillesse, les hommes sont froids et secs jusqu'aux parties solides. Ambroise Paré.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Bis pueri senes, c'est-à-dire que le vieillard retombe en enfance.
Retombé, c'est un retour, oui. Alors, ce qui est vraiment fondamental dans ce texte, une fois encore, c'est la tentative d'essayer de donner des graduations dans la manière dont l'âge peut avancer. Et du coup, ce qu'il faut retenir, et qui est très loin, évidemment, de nos repères, c'est qu'apparemment, la vieillesse commence à 35 ans. C'est un texte, d'ailleurs, qui est repris de ce que peut dire Galien, au tout début de notre ère, si vous voulez. Et Galien dit à peu près la même chose. Moi, ce que je retiens encore, c'est de voir comment il tente de différencier des âges après 49 ans. En revanche, il n'en donne pas le chiffre, voyez ? Il en donne simplement le comportement. Quand il donne le comportement, c'est important de voir que le négoce civil, c'est aussi quelque chose qui représente l'activité. Donc ça, ce serait la première période, voyez, de ce qu'on pourrait appeler la grande vieillesse, si vous voulez. Mais en revanche, l'imbécilité de la vertu, c'est le fait de ne plus pouvoir avoir la possibilité d'engendrer et d'avoir des relations sexuelles. L'imbécilité de la vertu, c'est la vertu physique en quelque sorte.
Au sens latin du terme, l'énergie.
L'énergie quasi sexuelle. Et en revanche, le troisième, c'est vraiment la disparition de l'être, enfin la perte totale, comme dit-il, impotent de corps et d'esprit.
Le gâtisme.
Voilà. Moi, je voudrais souligner cela, cette difficulté de donner des chiffres pour essayer de différencier ce qui est quand même différencié dans le comportement.
Scander le temps, voilà, scander. Dans l'évolution.
Oui, il y a l'obsession de scander et la difficulté de le faire.
Alors avant de quitter ce XVIe siècle, on doit évoquer Shakespeare, parce qu'il y a le fameux roi Lear qui est la plus magnifique incarnation à la scène de cette question du grand âge. Je vous rappelez ce qu'il dit. « De grâce, ne vous moquez pas de moi. Je suis un pauvre vieux radoteur de 80 ans et au-delà, pas une heure de plus ni de moins. Et à parler franchement, je crains de n'être pas dans ma parfaite raison. Je ne sais même pas où j'ai logé la nuit dernière. » On retrouve cette notion de mémoire individuelle qui est très importante,
qui est très importante
depuis l'Antiquité jusqu'à
bien
nos
sûr,
jours.
Qui est souvent soulignée, avec d'ailleurs des distinctions qui sont très subtiles, du type la mémoire actuelle, pour employer les mots d'aujourd'hui, est perdue, mais la mémoire plus lointaine ne l'est pas. Il y a des distinctions très subtiles qui existent depuis très longtemps. J'ajouterais peut-être aussi que la différence faite selon les textes et selon les époques de ce qui engage le moment de la vieillesse. Donc chez Ambroise Paré, c'est 35 ans. Vous avez pourtant des textes médiévaux qui disent que la vieillesse commence à 40 ans. Et puis vous avez des textes plus récents qui font commencer la vieillesse, je pense au 17e ou surtout au 18e, à 50 ans, 60 ans. Donc on voit bien comment ici, historiquement, vous voyez, culturellement, les seuils bougent. Et on comprend bien que les seuils bougent parce que la durée de vie, elle aussi, peut bouger et parce que la façon même dont les personnes se sentent en santé bouge.
Il y a un personnage qui est intéressant aussi, c'est Francis Bacon, parce qu'il réfléchit beaucoup à cette notion de vieillesse et qu'il réfléchit à la question des recettes qu'on pourrait trouver pour prolonger la vie, et notamment d'un point de vue de l'alchimie. Il écrit, vous allez voir, c'est curieux, « La peine et le souci, sans peur et pas trop importante, prolongent la vie en contractant les esprits, ce qui est une sorte de condensation ou d'épaississement. » Et ceci que je livre à ceux de nos auditeurs qui sont encore dans leur salle de bain, être poilu dans les parties inférieures, sur les cuisses et les jambes, est un signe de longue vie, mais pas sur la poitrine ou sur les parties supérieures. Chacun peut vérifier sur soi-même.
Oui, absolument. Là, c'est quand même très curieux. Mais son texte est important parce qu'il s'intitule « Histoire de la vie et de la mort ». Et sa question, c'est bien « Jusqu'où l'homme peut-il aller ?» Et son texte comporte une grande enquête. Comme le font d'ailleurs un certain nombre de textes d'hygiène de l'époque classique, ça a été traduit en français en 1628. Alors, la première édition 28 et ça a été traduit en français en 38. Donc, comme le font beaucoup de textes, ils s'interrogent sur jusqu'où les personnes âgées sont-elles, jusqu'à quel âge sont-elles allées? Et dans le texte de Bacon, on voit que c'est au fond 80 ans, très peu ont dépassé 80 ans. Mais le texte de Bacon est également intéressant pour une autre raison, parce qu'il systématise à savoir l'importance donnée aux humeurs. Alors bien sûr, c'est le premier à dire que la vieillesse passe par un dessèchement des humeurs, mais c'est en même temps quelqu'un qui, du coup, s'intéresse beaucoup à la façon dont les individus vivent selon les lieux dans lesquels ils sont. Donc il faut favoriser systématiquement, dit-il, le fait d'avoir un environnement qui permet de nourrir les esprits. C'est-à-dire qu'il faut un air totalement sain, par
exemple. C'est déjà le thermalisme d'aujourd'hui.
C'est déjà thermalisme. Et en même temps, il y a une ambiguïté, parce que il ne faut pas que ces esprits soient trop aérés, parce qu'à ce moment-là, ils ne seraient pas assez denses et assez riches. Donc il faut savoir, vous voyez, c'est très compliqué, il faut savoir fermer les fenêtres pour que une certaine densité puisse se provoquer. Et en même temps, il ne faut pas trop fortement fermer les fenêtres, sinon l'air deviendrait trop dense, et à ce moment-là, il serait plus véritablement exploitable. Ce qui est très intéressant dans ces problèmes, c'est que on voit que leurs repères sont extrêmement éloignés des nôtres, et on voit en même temps que ces repères obéissent à du système.
Alors, il faut, Georges Vigarello, dire un mot de la spécificité de la vieillesse féminine, dont nous n'avons pas encore parlé jusqu'à présent. Les textes sont très nombreux, j'en ai choisi un sur cette question. On pourrait aussi citer, bien sûr, Ronsard,
oui.
Bien sûr, Mignonne, allant voir si la rose qui ce matin avait éclose, etc. Mais je vous propose plutôt Queneau, Raymond Queneau, lu par Philippe Noiret.
Si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça, va durer toujours la saison des a, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette. Ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois, ha ha, que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois petite, que ça va, que ça va, que ça, va durer toujours. Ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Les beaux jours s'en vont. Les beaux jours de fête, soleils et planètes tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. Tresse sournois s'approche, l'aride, véloce, la pesante graisse, le menton triplé, le muscle avachi. Allons, cueille, cueille les roses, roses de la vie, et que leurs pétales soient la mer étale de tous les bonheurs. Allons, cueille, cueille, si tu le fais pas, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres.
J'aurais pu, bien sûr, Georges Vigorello, vous donner l'interprétation en musique de Juliette Gréco, qui est une magnifique artiste aujourd'hui à 88 ans. Nous pourrions presque lui dédier cette émission.
Absolument. Et, mais ce qu'il faut retenir aussi dans ce texte, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, il aurait pu, dans une certaine mesure, être écrit au XVIe siècle. Parce que ce qu'invente la Renaissance, me semble-t-il, c'est vraiment une importance plus grande donnée au présent. Et évidemment, Mignonne, Alors voici la rose, cela vient immédiatement à l'esprit. Mais je pense à un autre vers de Ronsard adressé à Hélène et qui dit « Vous avez oublié le corps à mon gré le meilleur ». Vous avez choisi l'esprit, etc. Et il y a bien quelque chose qui porte sur le fait d'être attentif ici et maintenant à ce qui se passe et profiter précisément de ce qui se passe. Oui, je pense aux vanités, ces fameux tableaux qui représentent au fond le temps qui passe, qui représentent le fait qu'il ne faut pas trop s'illusionner sur la beauté qui peut s'effacer, etc. Bien sûr, mais les vanités en même temps, indirectement, ce sont des tableaux qui vous disent « mais c'est le maintenant qui est important, c'est le son que vous entendez et qui va disparaître qui est important, c'est le parfum que vous respirez et qui va disparaître. »
Quand vous serez bien vieille un jour à la fin.
Oui, c'est ça. Sauf que la modernité a inventé ce à quoi aujourd'hui nous attribuons une immense importance. Mais la modernité a inventé l'importance donnée au présent par rapport au Moyen-Âge qui n'était pas vraiment centré sur ce même type de repère, qui au contraire, le Moyen-Âge est centré sur avoir une belle vie, savoir aller vers la mort, vous voyez, les fameux règles de bien mourir. La mort peut survenir à chaque instant, donc chaque instant devient précieux.
Vous pensez à Dürer, vous pensez à Cranach?
Je pense à Dürer, je pense à Cranach, je pense en particulier à ces tableaux qui figurent une jeune fille dans le dos de laquelle se trouve la fameuse faucheuse. Et donc, c'est avec l'insistance donnée sur quelque chose qui est fabuleusement précieux, d'autant plus précieux qu'il peut disparaître immédiatement.
Quand vous parlez de la sorte de la Renaissance, on a l'impression que la Renaissance est plutôt plus proche de nous que ne le sera le XVIIe siècle.
Oui, je pense que la Renaissance a vraiment fait émerger quelque chose que je qualifie moi comme étant la modernité, même si bien sûr trancher les époques de façon un peu trop forte c'est toujours contestable, mais a fait émerger quelque chose qui est de l'ordre de la modernité et qui est l'intérêt porté sur ce qui se fait ici et maintenant. Et en multipliant les attentions possibles aussi ici et maintenant, la nature, par exemple, vous voyez, la nature, le corps qui change, ce qui est la lente attention à ce qui est mangé, etc. Le vêtement, je pense à ce financier du XVIe siècle allemand, un ami de Fugger. Que fait-il? Eh bien, il se fait peindre chaque année pour pouvoir être attentif non seulement à la façon dont il change, mais aussi aux habits qu'il portait et à l'importance qu'il pouvait leur donner. Avec la crainte que l'affaissement va surgir, vous voyez. Donc il y a bien là une sorte d'attachement comme si rien ne devait changer.
Ça, c'est cette forme de narcissisme qui consiste à se regarder soi-même vieillir. Il y a eu un livre il y a une dizaine d'années qui n'a pas eu beaucoup de rayonnement, mais j'avais trouvé intéressant un livre d'Antoine Vivot qui s'appelle Sénesco, qui est le journal d'un homme qui regarde sur lui-même tous les effets d'une décrépitude en marche.
Mais alors justement, à partir de l'exemple que vous venez de donner, moi je trouve que ce que... j'allais dire inventer notre période contemporaine, c'est peut-être un mot fort, mais par rapport au XVIe siècle, où, au fond, les individus parlent d'eux-mêmes, mais sans... il y a le cas de Montaigne, bien entendu, mais parlent d'eux-mêmes sans trop approfondir ni s'attarder. Je trouve qu'aujourd'hui, au contraire, il y a une sorte de tentative de creuser de plus en plus sur ce qui est véritablement vécu et éprouvé, d'où l'intérêt que je portais récemment à ce que j'avais appelé le sentiment de soi. Et je pense à cet exemple très important, à mon sens, du livre de Jean Amery, qui s'appelle « Du vieillissement, révolte et résignation », qui est publié en 2009. Et Jean Amery suit de façon quasi obsessionnelle sur le fait qu'il change, sur comment change-t-il. Il insiste en particulier sur le fait que vieillir pour lui, c'est pas seulement sentir des transformations qui sont intimes et internes, mais c'est sentir le monde qui change. C'est-à-dire que le monde devient mon adversaire. Vous voyez, je ne peux plus vivre dans l'espace comme je vivais auparavant. Et je suis, au fond, de plus en plus confronté à ce qui est de l'ordre du non-moi. Et c'est le non-moi qui l'emporte sur moi.
Cela s'appliquerait assez bien à la citation du général de Gaulle que je vous proposais.
Absolument.
En commençant, à 77 ans. C'est le même homme qui avait évoqué Pétain en disant, formule célèbre, la vieillesse est un naufrage.
Oui, absolument.
Et pour que rien ne fût épargné, la vieillesse du maréchal Pétain allait s'identifier avec le naufrage de la France. Le XVIIe siècle montre plutôt des vieillards dont l'âge ne fait qu'accuser tous les défauts de l'homme. Je pense à Géronte, à Argante, à Harpagon.
Le XVIIe siècle, c'est un siècle où la démographie ne change pas. L'âge de la mort moyenne est toujours le même, c'est-à-dire que l'espérance de vie, c'est de l'ordre de 30 ans, ça ne change pas. Mais en revanche, je pense que l'attention au comportement, l'attention à la distinction des sentiments, l'insistance sur la sensibilité, fait que naissent de nouveaux types de préoccupations. Je pense par exemple à Madame de Sévigné, qui se passionne pour sa petite fille. Vous n'avez pas d'exemple auparavant. Or c'est curieux, parce que d'un côté, je me répète, l'âge moyen ne change pas, et en même temps, vous avez de nouveaux types de préoccupations. Qui sont ceux dont je viens de parler, mais qui sont aussi, c'est vrai, une accusation sévère à l'égard de l'âge.
Apparition des grands-parents, bien avant Victor Hugo.
C'est très curieux ce qu'elle dit sur Pauline. Elle est totalement fascinée par le comportement de Pauline. Or, vous n'avez pas d'indication précédente. Et en même temps, vous avez, à la période classique, quand même une présence curieuse de la vieillesse. Je pense par exemple à Louis XIV qui prend comme chancelier Étienne d'Ali qui n'a pas moins de 82 ans.
On évoque cette année l'anniversaire de la mort de Louis XIV qui meurt à 75 ans environ.
78,
oui. Avec un corps prodigieusement décrépit, on nous le décrit sentant mauvais.
Absolument.
C'est
affreux. Alors l'image de Louis XIV, c'est une image qui a été très bien décrite d'ailleurs par la thèse de quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Stanis Pérez. C'est une image ambivalente. Parce que d'un côté, les courtisans ne veulent absolument pas que l'image du roi apparaisse comme celle d'un corps totalement décrépit, même si on le conduit parfois dans une petite roulette, etc. Donc ils ne veulent pas. D'où il y a, de la part des courtisans, la tentative de montrer que le roi reste puissant, qu'il reste totalement réfléchi, qu'il est largement dominateur, qu'il a de l'élégance. Et d'un autre côté, on sait parfaitement que c'est quelqu'un qui est complètement défait. C'est-à-dire qu'il n'a plus de dents, il a une goutte qui l'empêche de marcher.
Oui, et vraiment, les deux corps du roi au sens de Kantorowicz.
Voilà, absolument. Les deux, oui, c'est tout à fait ça. C'est les deux corps du roi au centre de Kantorowicz. On voit bien que là, il y a deux façons d'évoquer le prince lui-même.
Le XVIIIe siècle voit progressivement le vieillard s'installer dans une situation meilleure. Je pense en particulier aux philosophes, je pense, outre le fait que Fontenelle vit 100 ans. Mais enfin,
oui.
C'est une époque, on peut dire, où les septuagénaires sont des raretés, où les octogénaires sont des champions et les nonagénaires des phénomènes.
C'est tout à fait évident. Autrement dit, la démographie elle-même n'est quand même pas l'objet d'un immense changement.
7 à 8% seulement atteignent 60 ans.
Atteignent 60 ans, oui, absolument. Oui. Mais en revanche, il y a quand même, et c'est pour ça que je pense que l'image de la vieillesse peut insensiblement changer. En revanche, il y a quand même une différence d'espérance de vie entre le début du siècle et la fin. Vous voyez, il s'est produit quelque chose. Sans doute autant lié au fait qu'il y a une moindre natalité, et ce qui entraîne du coup une présence plus grande des personnes âgées. Et en même temps, ce qui s'est produit aussi, c'est le fait que l'âge, la fin de vie, insensiblement recule. Je prends un exemple très simple. Entre le début et la fin du 8e siècle, la possibilité de survivre en France, entre 65 et 80 ans, passe de 142 pour 1000 à 223 pour 1000. Donc on voit bien que le changement n'est pas considérable, mais il est quand même sensible.
Je rappelle que l'espérance de vie, c'est le moment où la moitié d'une classe d'âge aura disparu.
Absolument, absolument. On voit bien apparaître de nouvelles notions, et on voit bien apparaître de nouvelles images. C'est ce livre de Guton que j'avais toujours trouvé remarquable, qui s'appelle « La naissance du vieillard ». Et Guton, qui publie ce livre en 1988, montre que, et c'est vrai, il y a l'émergence d'un nouveau type de personnage dans le champ social. On le voit dans la peinture. Je pense par exemple, autant des peintres comme Watteau ne représentent pas des personnes âgées, pour employer le mot d'aujourd'hui, autant Greuze, l'ami de Diderot, représente des personnes qui sont âgées. Et autant, précisément, Diderot, lorsqu'il commente une peinture de Lejeune, va dire la chose suivante, ce que on ne voyait pas auparavant. Les détails du vieillard sont admirables, belle tête, belle barbe, beau caractère, belles jambes, beaux pieds, belles oreilles et tissus, et des chairs. Mais ce n'est pas le tableau que j'ai dans mon imagination. voyez, donc son imagination, c'est pas exactement ça du vieillard, mais en même temps, il regarde quelque chose qui représente autrement le vieillard qu'il ne l'était jusque-là. Vous avez aussi ces manières dont Rétif décrit le père.
Rétif de la Bretonne.
Des Rétifs de la Bretonne. Donc, il y a quelque chose qui change. La première rupture, pour en premier mot, sans doute un mot fort, apparaît ce que l'on pourrait appeler le bon vieillard, la force donnée à ce vieillard, avec bien entendu des disparités sociales qui sont extrêmement fortes. Par exemple, les magistrats du Parlement et du Grand Conseil de la Cour des Monnaies de Paris au XVIIIe siècle ont une espérance de vie à la naissance entre 45 et 51 ans. Et bien entendu, l'âge moyen à la fin du siècle, c'est 40 ans. Donc il y a bien des différences sociales qui sont très importantes et qui sont relevées. Mais ce qu'il faut peut-être ajouter, et que personnellement je trouve important, c'est que les auteurs que je qualifierais de culture s'intéressent à l'âge non plus seulement sur le mode du commentaire, mais sur le mode du calcul. Autrement dit, ils commencent à faire de la statistique. Vous voyez, je pense à Deparcieux, je pense à Buffon. Ils commencent à essayer d'installer sur le mode chiffré ce que l'on pourrait appeler l'échelle des âges.
Malthus en Grande-Bretagne et Imhoff en France.
Exactement. Et donc cela, ça a bien une signification culturelle.
La Révolution est intéressante parce qu'elle vient concentrer cet intérêt retrouvé pour le vieillard, cette sympathie nouvelle, puisque on sait que c'est le moment, enfant et vieillard, le moment où la Convention décide qu'on pourra donner la nationalité française à qui adopte un enfant ou entretient un vieillard.
Oui, et puis il y a cette image quand même, c'est vrai, il y a cette image très valorisée du vieillard au moment de la Révolution. Je pense par exemple à la proposition de Hérault de Séchelles, la République honore la vieillesse, nouvelle vertu civique, ou fête de la vieillesse, célébrée devant tout le directoire, institue le tribunaire en quatre. Donc là c'est très important. Je pense que c'est une forme d'affirmation née dans la deuxième moitié du XVIIIe et sacralisée, si on peut utiliser ce mot, au moment de la Révolution française. Effectivement, c'est très révélateur.
Et dès lors qu'on étudie, comme nous le faisons ce matin, qu'on se penche sur la question de l'image des vieillards, on dirait aujourd'hui des seigneurs, parce qu'on a inventé ce mot pudique, oui, dans l'opinion publique, un tournant important, ce XVIIIe siècle.
Alors, ce qui est également mérite d'être relevé, c'est que ce siècle n'invente pas, sauf à l'extrême fin du siècle avec le problème de la variole et du premier vaccin, mais il n'invente pas vraiment de découvertes médicales importantes, il n'y a pas de façon de soigner nouvelle, etc. Mais il y a une attention. Il y a une attention à la propreté, il y a une attention à la façon dont les gestes sont faits pour la naissance des enfants. Donc on voit une baisse de la mortalité infantile, vous voyez, sans qu'il y ait d'invention médicale importante. Ce qui prouve bien, là, je crois, au fond, un déplacement culturel, un intérêt pour à la fois l'enfance, l'âge, la manière dont le quotidien peut fonctionner. Et ça, je trouve que c'est très important, parce que ça crée une rupture.
C'est aussi à cause du vaccin contre la variole, qui diminue beaucoup la mortalité infantile. C'est aussi le moment où on voit apparaître cette notion d'adolescence qui est tout à fait nouvelle, parce qu'auparavant, oui, on passait directement de l'enfance à l'âge adulte.
Donc, vous voyez, il y a une attention beaucoup plus grande à l'enfance, et du coup, avec la possibilité de décaler des âges, qui est liée incontestablement à une attention beaucoup plus grande aux naissances, et donc à une baisse de la mortalité infantile. Mais en revanche, la question de la variole, qui est une question absolument passionnante, qui est traitée sous un mode nouveau dans la deuxième moitié du XVIIIe, avec l'inoculation. Autrement dit, on inocule des fragments de boutons varioleux dans le corps de quelqu'un qui est sain, on lui provoque la variole. Et dans bien des cas, ça permet de ne plus ensuite être sensible à ce type de virus. Mais c'est vrai que l'invention du vaccin, qui est
nouveauté prodigieuse.
Nouveauté prodigieuse, qui est à ce moment-là une pratique tout à fait non dangereuse. Oui, la vaccine de Jenner, c'est vraiment l'extrême fin du 18e. Et alors, c'est très important parce que je pense que ça joue un rôle, effectivement, sur la mortalité. Et c'est là, nouveau décalage, début 19e, c'est là qu'effectivement, on entre dans des modes démographiques qui sont neufs.
Le 19e siècle, Georges Vigarello, c'est aussi Victor Hugo, l'art d'être grand-père. Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. C'est le début de Beaux endormis de Victor Hugo.
Bien sûr, oui, les passages de Victor Hugo sont absolument révélateurs. Je reprends Beaux. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Donc on voit bien l'importance que Hugo peut donner à cet âge. Et il est reconnu d'ailleurs, lui-même. Est reconnu comme un vieillard mille fois respectable, voire son statut, etc.
Jean Valjean,
les personnages qu'il décrit. Jean Valjean est un colosse, en quelque sorte tragique, indomptable, quelqu'un qui a une résistance de tout à fait extrême et qui en même temps allie à cela de la générosité. On le voit aussi dans cet espoir qui se trouve chez l'homme à l'oreille cassée, chez Edmond Abou, comme si on pouvait inventer un âge qui ne se terminerait jamais. Vous savez,
on peut rappeler le thème,
c'est l'homme qui sort de l'hibernation et qui peut comme ça vivre de façon extrême. Alors ça pose des problèmes d'ailleurs, parce que en même temps, quand il se réinscrit dans la réalité, il est souvent en décalage. Mais ce que je trouve tout à fait marquant, c'est cet espoir de pouvoir prolonger de façon quasi indéfinie grâce à la science. La technique et la science, si vous voulez. Mais ce qu'invente le 19e, quand même, je pense qu'il faut y revenir et peut-être souligner, ce qu'invente le 19e, c'est évidemment le déplacement démographique, donc la lente montée de l'espérance de vie qui va aller de 40 ans à 60 ans, etc. Mais aussi des réflexions nouvelles. Par exemple, les maladies des vieillards. Voyez, autrement dit, jusque-là, on s'intéressait à l'hygiène des vieillards. Là, on va s'intéresser à des pathologies spécifiques qui sont éventuellement les pathologies des vieillards, voire le texte de Charcot, qui lui essaie de spécifier véritablement des pathologies particulières.
Le père de Marcel Proust, Adrien Proust, s'est beaucoup occupé dans son livre « Hygiène publique et privée » des questions que vous dites.
Absolument, et qui s'inspire d'ailleurs de Charcot. Adrien Proust est quelqu'un qui, dans son hygiène publique et privée, va essayer, en se centrant sur la question de la vieillesse, va essayer de dire quels sont les mots très précis dont cette vieillesse peut être victime. Et puis, la dynamique se continue avec les textes du début du 20e, les maladies des vieillards, qui sont de plus en plus précisées. Je pense à ce livre vraiment important d'Adrien Pic et de Stéphane Bonamour, précis des maladies des vieillards. Alors, avec, pour la première fois, des interrogations de type non plus moral, mais psychologique. Et là, il y a quelque chose de neuf, vous voyez. Avec, on n'a plus la même spontanéité, on s'intéresse plus aux mêmes choses, on n'a plus le même type de réactivité. C'est pas de la morale, ça. C'est vraiment, au fond, de l'intériorisation psychologique. Le mot le plus important étant gériatrie, au début de la deuxième moitié du 20e, et surtout, le plus important, c'est gérontologie. Et que fait la gérontologie? Mais la gérontologie, elle va s'intéresser à ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire les maux physiques, le vieillissement des grandes fonctions physiques, mais aussi le vieillissement des aptitudes. Et ça, c'est très neuf. Avec des tests sur les aptitudes, la sensibilité, la perte de la mémoire, la baisse de forme d'intelligence, vous voyez, tests d'intelligence, tests de psychomotricité, et au fond des champs qui s'ouvrent de préoccupations sur ce que la vieillesse est en mesure d'atteindre.
Est-ce que ce n'est pas l'effet tout simple de la multiplication des vieillards, des seniors, des anciens, du dernier âge, du troisième âge ou du quatrième âge, tant qu'il y en avait très très peu, c'était pas très utile d'y consacrer beaucoup d'efforts?
Oui, c'est ce prolongement, bien entendu, mais ce que je veux souligner, c'est que c'est aussi, au fond, la conséquence de ce que peuvent apporter les sciences humaines, qui font que l'interrogation sur les personnes n'est plus simplement une interrogation sur qu'est-ce qui se détruit physiquement, si vous voulez, mais c'est qu'est-ce qui se détruit dans leur comportement. Et ce comportement n'étant plus analysé comme pouvait le faire Molière sur le mode moral, mais étant analysé sur le mode psychologique.
Et sur le mode sociétal.
Et sur le mode sociétal,
comment,
bien sûr, absolument.
Quelle place peuvent-ils avoir dans la société?
Quelle place peuvent-ils avoir? Oui, ça c'est très important, oui, absolument. C'est plus simplement comment dysfonctionnent-ils et comment doit-on s'intéresser à eux, mais quelle place peut-on leur donner? C'est une question fondamentale et totalement contemporaine.
Il est d'ailleurs notable que, à la fin de ce 19e siècle, plusieurs des grands États de l'Europe occidentale sont dirigés par des vieillards, en attendant Clémenceau en 1917.
Oui, et c'est là que se concrétise précisément le déplacement démographique, avec des images tout à fait nouvelles. Je pense par exemple, Victor Hugo, vous l'avez cité, sénateur inamovible en 76, les funérailles grandioses en 85, mais Guillaume Ier, par exemple, qui est empereur d'Allemagne en 71, le vainqueur de la France en 70, qui meurt à 91 ans et qui est surnommé l'héroïque vieillard, ou Giuseppe Verdi. Bon, la première d'Othello en 87 se déroule alors qu'il a 74 ans.
Il y a Bismarck aussi, qui n'est pas de la première jeunesse.
Et surtout, cette première d'Othello se déroule devant un parterre de célébrités venues du monde entier, en hommage à Giuseppe Verdi, qui a quand même 74 ans, vous voyez. Donc il y a, à la fin du 19e, une sorte d'honneur reconnu aux personnes fortement âgées, qui, je crois, représentent un déplacement démographique important.
Jules Grévy est réélu à la présidence de la République. Ça ne durera pas parce que Le scandale lié à son gendre, à quel malheur d'avoir un gendre, et la vente de décorations l'emportera, mais il est élu et presque octogénaire.
79 ans, tant que je me souviens, oui.
Alors évidemment, quand on entend aujourd'hui tel candidat à la candidature du côté de la droite, tel candidat daubé sur l'âge d'un de ses concurrents, jeune septuagénaire, on se dit que c'est un peu décevant. En revanche, le temps du romantisme du XIXe siècle correspond à une grande contestation, avec en particulier cet attrait pour le suicide, la mort devenant une fuite commode, le grand âge étant presque préoccupant. Le suicide, c'est au fond celui à quoi songeait déjà Gary, Romain Gary, dans le propos que je vais vous faire entendre en juillet 1969. Il a 55 ans. Mais ses propos laissent prévoir qu'il se donnera la mort, ce qu'il a fait plus tard.
Bref, je ne vois pas ce que l'âge vous apporte, si ce n'est le fait qu'on a tout de même laissé pas mal d'efforts derrière soi à ne plus refaire. Au fond, ça se résume à une seule formule. Que me demanderez-vous, que pensez-vous de votre passé aujourd'hui, Romain Gary, à 55 ans? Je vous dirai simplement ceci, bon débarras.
Mais la vieillesse, vous en êtes encore
loin.
Non,
écoutez,
mais...
d'abord, entendons-nous par la vieillesse. Je ne connaîtrai jamais la vieillesse. D'une manière ou d'une autre, n'importe quelle façon, mais ne pas connaître cet état absolument effrayant où l'on devient vraiment vieux. Et je vais vous dire ce que j'entends par vieux. Ce n'est pas d'être vieux. J'entends par être vieux sans le savoir. On devient tellement vieux qu'on oublie qu'on est vieux. Moi, j'ai rencontré à Paris l'autre jour un monsieur dont j'entends parler depuis très longtemps, et dont tout le monde me disait, regardez quelle merveilleuse jeunesse, il conserve à 75 ans. Je l'ai vu dans un salon. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un mannequin embaumé, pommadé, teint, esthétisé, tenu par de je ne sais quel moyen artificiel, qui ne s'asseyait jamais et qui sautillait sur ses jambes pour donner une impression de jeunesse. Et j'ai jamais eu une impression aussi pénible et aussi sinistre. Il avait oublié qu'il était vieux, il a fait tout ce qu'il fallait pour l'oublier. Donc ce que je dis par là, c'est que le vieux qui se sait vieux, c'est presque toujours très beau. Les vieilles dames, j'adore ça, elles ont une beauté, elles ont un style, elles sont formidables. Mais ce qui est le plus terrible, c'est la vieille femme qui se met du rouge partout, du bleu, du blanc, du chocolat, du gris, n'importe quoi, et qui ressemble à des espèces d'arc-en-ciel. Ça, c'est terrible. Ça, c'est la mauvaise, la triste, l'affreuse vieillesse. Moi, je ne sais pas, chez moi, en général, la famille, l'hérédité, va à 62, 63 ans, mais on ne sait jamais.
Vous ne vous imaginez pas vivre très âgé?
Ah non, vraiment pas. Je crois que je peux prendre cet engagement devant vos spectateurs.
L'engagement a été tenu. Romain Gary était ici interviewé par André Bourin le 3 juillet 1969. Sa description du personnage ou des personnages qui interviennent dans ce propos, dans cette archive, évoque un peu Georges Bigarello, la fin de la recherche du temps perdu.
Oui, l'engagement a été tenu et nous retrouvons l'ambiguïté dont nous avons parlé sur l'ensemble de nos échanges.
Il s'est tué à 66 ans.
Ah, voilà.
Après avoir publié un livre fameux qui s'appelle « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable », ce qui met évidemment l'accent sur les aspects sexuels de la vieillesse.
Donc nous retrouvons l'ambiguïté dont nous avons parlé. Ici, Romain Gary est quelqu'un qui défend systématiquement la tenue du présent, le fait de ne pas changer, le fait d'exister dans le présent, avec la crainte affreuse que quelque chose puisse bouger et le détruire, le défaire, le diminuer. Je trouve par ailleurs que la description qu'il donne de cet homme de 75 ans est relativement différente de ce que nous pouvons connaître aujourd'hui.
Vous voyez, ça a bougé très vite.
Ça a bougé très très vite. Il faut bien quand même le reconnaître. Dans le propos de Romain Gary, ce que l'on retrouve, c'est cette façon de se situer personnellement et de parler de soi vis-à-vis de l'âge. Et ce qu'on voit dans le texte que j'évoquais tout à l'heure de Jean Amry, du vieillissement, révolte et résignation. Vous voyez, il y a aujourd'hui une manière beaucoup plus spontanée, directe, intuitive de parler de soi et de parler de son âge.
Merci beaucoup Georges Bigarello. J'ai trouvé dans le livre qui a eu beaucoup de succès de Benoît de Groult, La touche étoile, un livre de 2006, cette formule « L'âge est un secret bien gardé, dire ce qu'est la vieillesse, c'est chercher à décrire la neige à des gens qui vivent sous les tropiques ». J'espère que nous avons, pendant cette heure d'émission, nous avons pu démentir quelque peu ce propos-ci. Samedi prochain, l'actualité va vous sauter aux yeux. Arrivé vers vous à grande vitesse, nous parlerons de Volkswagen, bien sûr. Volkswagen, puissance, arrogance, pénitence. Je me suis amusé à choisir ce sous-titre. Et je recevrai Hélène Millard-Delacroix. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Alexandre Dang, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et Arnaud Planson pour les archives INA. Et dans quelques instants, Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.